Lettre 73. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 3 octobre. Vos dernières nouvelles, mon cher enfant, sont effectivement des plus étranges. Qu'une fille avouée de Sir John Belmont est parue à Bristol, tandis que mon Evelina y demeure sous le nom déguisé d'Anville, c'est un problème que je ne suis pas capable de résoudre. Quoi qu'il en soit, je me suis attendu à quelque événement extraordinaire au retour de votre père. Le sens mystérieux de sa lettre à Lady Howard m'y a en quelque sorte préparé. J'ignore qui peut être la jeune personne dont vous parlez, mais il n'est pas moins sûr qu'elle usurpe une place qui vous appartient à juste titre. Je n'ai jamais entendu parler d'un second mariage de Sir Belmont. Supposez même qu'il ait existé, il restera toujours vrai que Miss Evelyn a été sa première épouse. Et, par conséquent, l'enfant né de ce mariage est incontestablement en droit de porter le nom de Belmont. Ou je suis mal informé des circonstances de cette affaire, ou il s'y est glissé une insigne fourberie. Il faut approfondir ce qui en est. Quelle que soit ma répugnance à me porter à des extrêmes, je sens cependant que nos recherches deviennent nécessaires. Nous devons essayer de rétablir la réputation de votre mère, ou bien risquer de lui porter le dernier coup. L'apparition d'une fille de Sir John Belmont ne saurait manquer de faire revivre le souvenir des aventures de Miss Evelyn. Le public demandera quelle est la mère de l'enfant qu'on produit aujourd'hui, et si votre père refuse alors d'avouer la seule épouse légitime que je lui ai connue, votre naissance en recevra une tâche contre laquelle nous réclamerions en vain l'honneur, la vérité et l'innocence. Cette tâche couvrirait d'infamie la mémoire respectable de votre mère, et vous exposerez à l'odieux d'un titre honteux que toutes vos bonnes qualités ne rachèteraient que difficilement. Non, ma chère, je ne souffrirai point qu'on insulte impunément au centre de votre mère. Son caractère vertueux sera justifié aux yeux de l'univers, son mariage sera reconnu, et sa fille portera le nom auquel elle a des droits incontestables. J'avoue que Madame Mirvan conduirait cette affaire avec plus de délicatesse que Madame Selwyn, mais nous n'avons point de temps à perdre, car plus cette fourberie s'accréditera, plus nous aurons de peine à la confondre. Je vous conseille donc de partir de Clifton le plus tôt possible. Votre activité facilitera nos recherches. Ne vous laissez point accabler, mon enfant, à trop de tristesse et tâchez de vaincre votre timidité naturelle. Sans doute que je plains votre situation. L'entrevue à laquelle vous êtes appelé est importante et solennelle. Mais aussi, je me flatte d'un succès complet. Je vous envoie une lettre que votre infortunée mère écrivit sur son lit de mort à Sir Belmont. Je l'ai réservée pour quelque grande occasion et c'est l'instant d'en faire usage. Madame Clinton doit être du voyage. Elle a soigné votre mère dans sa dernière maladie et son témoignage peut vous être utile. Enfin, Sir Belmont pourra-t-il résister à la ressemblance frappante de vos traits ? Cette seule circonstance devrait le désarmer et dissiper ses doutes. Recevez, mon Evelina, dans ce moment auguste où vous allez vous jeter entre les bras de votre père légitime, recevez les prières, les vœux et les bénédictions de celui qui l'a été jusqu'ici par adoption. Puissiez-vous, mon enfant, conserver toute l'excellence de votre caractère dans le changement de situation qui vous attend. Pensez à rester humble dans l'élévation à laquelle j'espère de vous voir parvenir. Que vos manières, votre langage, toute votre conduite prouvent l'égalité d'âme et les sentiments de reconnaissance qui devraient toujours nous accompagner dans la prospérité. Ils y ajoutent un nouveau lustre. Puisse votre vie n'être souillée d'aucune tache. Puissiez-vous rester fidèle à cette franchise ingénue, à cette simplicité de mœurs, cette aimable sincérité que j'ai admirée jusqu'ici en vous. Puissiez-vous être au-dessus de la vanité et de l'orgueil et faire consister toute votre grandeur à faire du bien. Arthur Villard. Lettre 74. Renfermée dans la précédente. Lady Belmont à Sir John Belmont. Dans la ferme persuasion que l'heure d'angoisse qui s'approche mettra fin à mes souffrances, je veux encore une fois parler à Sir John Belmont en faveur de l'enfant qui, s'il survit à sa mère, sera chargé de lui présenter ses lignes. Mais en quels termes, homme cruel, l'infortunée Caroline vous écrira-t-elle avec quelque espérance de succès ? sourd à la voix de la compassion, au remords de la conscience, infidèle au lien de l'honneur. Dites, Belmont, quelles sont les expressions que je puis employer sans crainte d'être rebuté? Vous donnerai-je le tendre nom de mon époux? Hélas, vous le désavouez. Vous appellerai-je le père de mon enfant? Et vous le condamnez à l'infamie. Vous nommerai-je mon amant qui m'a gardé la foi d'un mariage forcé? C'est vous-même qui me trahissez. Vous donnerai-je enfin le titre d'un ami dont j'attendais des secours? Non, car c'est vous qui m'avez plongé dans la misère et qui avez causé ma ruine. Malheureuse que je suis, que me reste-t-il à faire pour toucher un cœur fermé à l'équité, au remords, à la pitié? Y a-t-il un moyen que je n'ai éprouvé? Y a-t-il une ressource que je n'ai tentée? J'ai tout employé, l'amertume des reproches, la force de mes prières. Tout a été inutile. 20 fois déjà, la plume m'est tombée des mains et je me suis dit dans mon désespoir que je n'avais rien à espérer de vous. Mais la tendresse maternelle, la tendresse d'une mère qui tremble pour le sort de l'enfant auquel elle va donner le jour, voilà ce qui me rend le courage. Peut-être, quand je ne serai plus, quand la coupe de mes maux sera remplie, quand la mort aura tiré le voile sur ma triste mémoire, quand vous n'aurez plus à craindre mes reproches, quand vous n'aurez plus à redouter mon témoignage et ma vue, alors peut-être votre cœur s'ouvrira à la voix de la justice, au cri de la nature. Belmont, ne le résistez point, ne rejetez point l'enfant comme vous avez rejeté la mère. Peut-être regretterez-vous un jour, quand il n'en sera plus temps, les maux dont vous êtes l'auteur. Peut-être vous repentirez-vous, trop tard hélas, d'avoir persécuté, d'avoir perdu une infortunée. Peut-être l'avenir vous rappellera-t-il les intrigues que vous avez employées pour me tromper, les angoisses et les peines qui me suivent dans le tombeau. Oh, Belmont, cette idée désarme tout mon ressentiment. Que deviendrez-vous quand vous jetterez un œil repentant sur votre conduite passée? Écoutez donc la prière solennelle de l'infortunée Caroline, la dernière qu'elle ose vous adresser. Lorsque le temps sera venu où vous gémirez sur vos erreurs, et ce temps viendra tôt ou tard, lorsque vous aurez reconnu vos torts et la noirceur de vos trahisons, lorsque votre cœur déchiré voudra expier ses crimes, alors je lui en offre encore les moyens. Lisez ici les conditions sous lesquelles je signe votre pardon. Belmont, je suis ton épouse, tu le sais. Hâte-toi donc de justifier aux yeux de l'univers une réputation que tu as flétrie. Reçois dans tes bras l'enfant infortuné qui te présentera cette requête de sa mère. J'ai trouvé un ami auquel je suis redevable du peu de consolation, du peu de tranquillité dont je jouis encore. Cet homme, le plus estimable et le plus digne des mortels, m'a donné sa promesse qu'à ce prix seul, il vous délivrera le gage de notre malheureux amour. Ah, si tu retrouves un jour, dans cette innocente créature, les traits de l'infortunée Caroline, si l'enfant te retraçait le souvenir de la mère, Belmont, par cette raison seule, tu le réprouveras peut-être. Cher objet de mon amour, cher enfant, pour qui je sens déjà toute l'étendue de la tendresse maternelle, garde-toi bien de ressembler à ta mère. La mort t'enlève un de tes parents et la haine te ferait perdre celui qui te reste. Je dois finir. Les forces m'abandonnent et je sens le poids des idées terribles qui m'accablent. Adieu pour toujours. Mais dans ces derniers adieux qui ne te seront présentés qu'après que la fougue de tes passions sera passée, qu'après que toutes mes douleurs seront descendues avec moi dans le tombeau, oublierai-je d'ajouter une parole consolante pour cet homme jadis si cher, qui puisse le soutenir dans les afflictions qui l'attendent? Non, Belmont, tu sauras que ma compassion l'emporte de beaucoup sur mon ressentiment. Je prierai pour toi dans mon heure dernière, et le souvenir de l'amour que je te portais autrefois effacera celui des maux que tu m'as faits. Encore une fois, adieu. Caroline Belmont. Lettre 75. Evelina à M. Villard. Clifton, le 3 octobre. En ouvrant mes volets ce matin, je vis Mylord Orville qui se promenait déjà dans le jardin. Je ne descendis cependant point avant l'heure du déjeuner. Il me reçut avec une froideur digne de Lady Louise. Madame Beaumont, Lady Louise et Madame Selwyn lirent leur conversation ordinaire, à laquelle votre Evelina ne prit aucune part. Négligée, tranquille et rêveuse, elle demeura à l'écart, comme un être qui ne tient à rien et dont personne ne se met en peine. Peu contente de ma situation, impatientée de me voir négligée de la sorte, je me retirai le plus tôt possible. En sortant, je trouvai dans mon passage Sir Clement Willoughby, qui me pressa instamment de rentrer avec lui. Je n'y consentis qu'à regret, mais je devais m'y résoudre si je ne voulais continuer à rester seule avec lui dans l'antichambre, car il me retint de force. J'étais cependant un peu honteuse d'avoir l'air de m'attribuer ainsi sa visite. Ses assiduités ne le font que trop soupçonner déjà. Il passa plus de 2 heures avec nous, et il affecta pendant tout ce temps de m'entretenir en particulier. Peut-être n'en aurais-je pas encore été débarrassée si Madame Beaumont n'avait proposé un tour en voiture. Lady Louise accepta, et Madame Selwyn dit qu'elle serait charmée d'être de la partie, pourvu que Mylord Orville ou Sir Clément s'en missent aussi. Un simple trio de femmes, ajouta-t-elle, lui semblait trop insipide. Sir Clément, toujours attentif à faire sa cour à Madame Selwyn, demanda la permission d'accompagner les dames. Mylord Orville s'en excusa, et moi je montai dans ma chambre, d'où je ne suis descendue que pour dîner. J'évite autant que je le puis la présence du Lord. Sa froideur m'est insupportable, quoique je l'y ai autorisé par ma propre conduite. Sir Clément fut encore des nôtres à dîner. Il joue son rôle à merveille et il a réussi à gagner entièrement les bonnes grâces de Madame Beaumont, qui n'est pas d'ailleurs d'un commerce aisé. Je me suis mortellement ennuyée pendant toute la journée. Il m'a fallu supporter à la fois et les importunités indiscrètes de Sir Clément et le silence révoltant de Mylord Orville. L'un ne m'a pas quitté un instant, l'autre ne m'a pas dit un seul mot. Le premier faisait naître les occasions de m'entretenir, l'autre les fuyait avec soin. Je commence à croire, mon cher monsieur, que le changement trop subit dans ma conduite envers le Lord était déplacé. À tout prendre, il ne m'a donné nul sujet de mécontentement, et le motif de cette altération étant uniquement à ma charge, je n'aurais pas dû m'astreindre à une réserve que je ne puis pallier par aucune raison légitime. D'ailleurs, il était naturel que l'affectation avec laquelle j'évite sa société fit un mauvais effet. Hélas, monsieur, mes réflexions viennent toujours trop tard. Il faut avouer que je paie bien cher le peu d'expérience que j'acquiers, et je prévois qu'il m'en coûtera encore beaucoup avant que j'arrive à ce point de prudence dont le sage se sert pour régler sa conduite présente et pour prévenir des embarras éloignés. Le 4 octobre. Hier matin, tout le monde sortit en voiture et je restai seule au logis avec Madame Selwyn. Je m'étais arrêtée un moment dans sa chambre, mais je m'en suis éclipsée au plus vite. Je crains la conversation de cette dame. Elle prend plaisir à me plaisanter impitoyablement, soit sur mon sérieux, soit sur le compte de Mylord Orville. En sortant de chez elle, je me suis rendue dans le jardin où j'ai passé une grosse heure. J'étais assise dans un berceau au bout de la grande allée, absorbée dans mes conjectures sur l'avenir, quand tout à coup je fus interrompue par Sir Clément Willoughby. Je l'attendais peu et il a su certainement que j'étais dans le jardin, car il ne vient guère s'y promener seul. Dès que je le vis arriver, je me préparai à m'en aller. Mais il me cria de loin « Arrêtez, la plus aimable des femmes, j'ai un mot à vous dire !» Et il n'eut rien de plus pressé que de s'asseoir à côté de moi. « Et pouvez-vous, continua-t-il, me refuser une légère faveur quand j'achète si cher la douceur de vous voir ? Pas plus tard qu'hier encore, n'ai-je pas souffert le plus cruel martyr ? Vous, Sir Clément ? Oui, belle inhumaine, n'ai-je pas consenti à être claquemurée dans une voiture pendant toute une mortelle matinée avec 3 des plus ennuyeuses femmes de l'Angleterre ? « En vérité, monsieur, ces dames vous ont une grande obligation. »« Oh, elles ne s'en doutent pas. Elles ont une trop haute idée de leur mérite pour croire qu'elles aient des égards à observer. Heureusement, on les en dispense. Ces dames ne pensent assurément pas que vous les traitez si mal. J'en suis bien sûr aussi, et leur amour-propre m'en répond. Mais être arraché de la société de Misanville pour s'enfermer avec des femmes comme celle-là, en vérité, c'est une situation digne de pitié, et tout le monde m'en plaindrait, excepté vous, madame. Quelque fâcheuse que vous présentiez cette situation, je ne vois pas que vous ayez été tant à plaindre, et aux yeux de bien du monde, elle aurait paru plutôt digne d'envie que de compassion. Le monde pense sur ce sujet à peu près comme moi. On se moque de madame Beaumont, on tourne Lady Louise en ridicule, et l'on déteste madame Selwyn. Vous êtes, monsieur, un juge sévère, et vos décisions sont tranchantes. Accusez-en vous-même, mon ange, si vos perfections ne servent qu'à faire ressortir leurs défauts. Je vous proteste que pendant toute cette course, j'ai cru marcher à pas de tortue. Le sot orgueil de madame Beaumont et le respect qu'elle se fait porter sont insupportables, assommants. À en juger par son air de gravité, l'on aurait dit qu'elle se promenait en voiture pour la première fois de sa vie. Je souhaite du moins que ce soit pour la dernière. Croyez-moi, madame, si je n'étais obligée de la ménager pour avoir l'entrée de sa maison, je la fuirais comme la peste. Madame Selwyn, à la vérité, tâcha de faire diversion au cérémonial, mais la méchanceté de sa langue... Comment, monsieur, vous vous récriez contre ce défaut ? Oui, madame, malgré votre reproche, je le trouve choquant, surtout pour une femme. Madame Selwyn, j'en conviens, a de l'esprit, elle a plus de connaissances que la moitié de son sexe ensemble. Mais elle court perpétuellement après la satire, et se penchant met tous ceux qui vivent avec elle mal à leur aise. D'ailleurs, à force de parler, elle ennuie, et les plus jolies choses deviennent insipides dans sa bouche. Quant à Lady Louise, c'est une petite langoureuse qui ne saurait entrer en considération. Si elle valait la peine d'être jugée sérieusement, je dirais qu'elle est un composé d'affectation, d'impertinence et de vanité. Vous me surprenez, monsieur. Pouvez-vous, en bonne conscience, entretenir une aussi mauvaise idée de ces dames et leur prodiguer tant d'attention, tant de politesse ? Des politesses ? Eh, mon ange, je serais homme à me mettre à genoux devant elles, à les adorer, pour me procurer la félicité de vous voir. Rappelez-vous ma déférence pour le brutal capitaine Mirvan et pour le gendarme qui se fait nommer Madame Duval. S'il pouvait exister une créature assez horrible pour réunir tous les défauts de ses différents caractères, une créature qui rassembla la fierté de Madame Beaumont, la brutalité du capitaine Mirvan, la présomption de Madame Selwyn, l'affectation de Lady Louise et la bassesse de Madame Duval, ce monstre même recevrait encore mes hommages si, par cette condescendance, je savais gagner un mot, un seul regard de mon adoré Misanville. Vous vous trompez, monsieur, si vous vous imaginez qu'une telle duplicité puisse vous servir de recommandation chez moi. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous prier de m'épargner un pareil langage à l'avenir. Oh, miss, votre froideur, vos reproches me percent le cœur. Traitez-moi avec moins de rigueur et vous ferez de moi tout ce que vous voudrez. Vous gouvernerez, vous dirigerez toutes mes actions, vous ferez de moi un tout autre homme. Je n'aurai de désir que les vôtres. Accordez-moi du moins votre pitié si vous êtes décidé à me refuser vos bontés. Encore une fois, monsieur, finissez ces discours. Ils me déplaisent trop pour qu'ils puissent jamais faire fortune chez moi. Jusqu'ici, vous n'avez que trop bien réussi à me tourmenter, et je vous préviens que si vous ne changez entièrement de langage et de conduite à mon égard, vous me chasserez partout où vous serez. Je m'étais levée, résolue de m'en aller, mais Sœur Clément, me retenant toujours, se jeta à mes pieds et s'écria du ton le plus passionné « Qu'osez-vous dire, miss ? Est-il possible que vous poussiez votre froideur mortelle jusqu'à me défendre le moindre rayon d'espérance ?» J'ignore, monsieur, de quelles espérances vous parlez. Ai-je jamais prétendu vous en donner ? Ah, vous me mettez hors de moi-même et je ne puis endurer plus longtemps votre mépris. Modérez cette extrême cruauté si vous ne voulez me réduire au désespoir. Dites du moins, belle inexorable, dites du moins que mon état vous fait pitié. Dans ce même moment, un malheureux hasard conduisit Mylord Orville devant le berceau où nous étions assis. Sa vue fut pour moi un coup de foudre. Il pâlit lui-même et parut interdit. Il se disposa à retourner sur ses pas, mais je l'appelai à mon secours et j'exhortai sévèrement Sir Clément à lâcher ma main. Celui-ci se leva, mais il me retenait toujours, et le Lord, peu attentif à mes cris, continua son chemin jusqu'à ce qu'il m'entendît appeler une seconde fois. Alors il revint vers nous en disant à Sir Clément d'un grand sang-froid « J'espère, monsieur, que vous ne retenez pas Miss Anville malgré elle. » « En tout cas, mylord, riposta celui-ci, je puis me passer de l'honneur de votre entremise. » En attendant, je m'étais débarrassé de ses mains et je me sauvai au plus vite. Mes craintes se tournèrent alors vers les suites que cette rencontre pouvait avoir et j'appréhendais fortement que l'orgueil humilié de Sir Clément ne le portât à provoquer mylord d'Orville. Je crus devoir recourir à Madame Selwyn et, en me précipitant dans sa chambre, je la priai d'une manière à peine intelligible de vouloir bien faire un tour du côté du berceau. Il n'en fallut pas davantage pour lui inspirer quelques soupçons et elle partit avec la vitesse de l'éclair. Je vous laisse à juger dans quelle impatience j'attendis son retour. À peine pus-je résister à la tentation de la suivre. Elle revint enfin et me rapporta un entretien des plus intéressants dont j'avais été l'objet. Je vais vous en faire part, monsieur, mais j'omettrai les commentaires et les saillies dont Madame Selwyn assaisonna son récit. Votre imagination les suppléera aisément. » Madame Selwyn trouva les deux cavaliers assis tranquillement dans le berceau et, s'apercevant qu'ils étaient engagés dans une conversation assez sérieuse, elle s'arrêta à quelque distance. Voici ce qu'elle m'en a communiqué. Sir Clément avait dit au Lord qu'une certaine question qu'il lui avait faite le surprenait. « Mais, a-t-il continué, je n'y répondrai point, à moins que Mylord d'Orville ne souffre que j'en propose une à mon tour. »« Volontiers, monsieur. Vous me demandez quelles sont mes intentions, et croyez-vous, Mylord, que je sois moins curieux de connaître les vôtres ?»« Je n'en ai montré aucune. » « Et à quoi donc faut-il attribuer votre désir de savoir les miennes ?»« À l'intérêt sincère que je prends au bien-être de Miss Anville. » »« Un tel intérêt est noble et digne des plus grands éloges. Mais à moins que d'être son père, son frère ou son amant... »« Je vous entends, Sir Clément, et je conviens que je n'ai point les droits que donnent ces différents titres de famille pour me permettre des recherches sur ce qui regarde Miss Anville. » Cependant, j'avoue en même temps que je ne désire rien de plus que de lui rendre service et de la voir heureuse. M'excuserez-vous donc si je prends la liberté de répéter ma question ? Oui, pourvu que vous me permettiez de vous répéter qu'elle me paraît des plus singulières. Soit, mais la situation de cette demoiselle me semble l'être tout autant. Elle est fort jeune, sans expérience et abandonnée à sa propre direction. Je croirais qu'elle ne s'aperçoit pas des dangers qu'elle court, et je ne vous dissimule pas, monsieur, que je me sens une vocation pour les lui faire remarquer. Je ne vous comprends pas trop, mylord, mais j'espère du moins que votre dessein n'est pas de la prévenir contre moi. J'ignore, monsieur, ce qu'elle pense de vous. J'ignore quelles sont vos intentions à son égard. Peut-être, si j'étais mieux instruit de vos sentiments réciproques, me verriez-vous moins officieux. Mais je n'ai pas la présomption de demander dans quels termes. Vous savez, mylord, que je ne suis pas assez vain non plus pour vous dire que je joue à jeu sûr. Cependant, avec un peu de persévérance... Vous êtes donc résolu à persévérer ? Oui, décidément, mylord. Dans ce cas, souffrez, monsieur, que je vous parle avec franchise. Cette jeune demoiselle, quoique abandonnée à elle-même, et en quelque sorte sans protection, ne manque pas absolument d'amis. Elle est parfaitement bien élevée, et on voit qu'elle a vécu en bonne société. Sa vertu et son esprit feraient honneur à tous les rangs, même aux plus élevés, et une telle personne n'est pas faite pour être amusée. On connaît vos principes, Sir Clément. Excusez ce petit reproche. Oh, ce sont ses propres affaires. Elle a trop de jugement pour avoir besoin d'être conseillée. Je ne lui dispute point un jugement sain et solide, mais son âge et l'ingénuité de son caractère ne la mettent pas assez en garde contre de certains soupçons qui me paraissent très fondés. Mylord, vos éloges m'inspirent quelque défiance sur votre désintéressement. Il n'y a personne au monde que je craindrais pour rival autant que vous. Mais qu'il me soit permis de vous dire que vous m'avez furieusement trompé dans cette affaire. Monsieur, de grâce, qu'entendez-vous par là ? Souvenez-vous, Mylord, que lorsque nous parlâmes pour la première fois de Misanville, vous vous êtes exprimé à son sujet dans des termes qui s'accordent peu avec votre panégyrique actuel. Il vous plut alors de l'appeler une fille simple, sans esprit, et je ne puis guère m'imaginer que vous aviez d'elle une si haute idée. Il est vrai qu'au premier abord, je n'ai point rendu justice à son mérite, mais j'ignorais alors combien elle était novice. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, et j'ai eu occasion de me convaincre que ce qu'il pouvait y avoir de singulier dans sa conduite était uniquement l'effet de son inexpérience, de sa timidité et d'une vie trop retirée. Car je lui trouve des connaissances, de la sensibilité et beaucoup d'intelligence. Elle ne ressemble pas à la plupart de nos jeunes femmes qu'on connaît à fond au bout d'une demi-heure. Les bonnes qualités de Misanville sont cachées par sa modestie et sa timidité. Il faut du temps et des encouragements pour les faire paraître dans tous leurs jours. Joignez à cela que sa beauté ne frappe pas des coups de surprise. Elle gagne le cœur petit à petit et s'en empare comme par enchantement. Halte là, Mylord, il n'en faut pas davantage pour expliquer l'intérêt que vous prenez à son bien-être. Je ne me cache point de l'amitié et de l'estime que j'ai pour elle. Mais soyez persuadé, monsieur, que si j'avais laissé voir à Misanville d'autres sentiments que ceux de l'amitié la plus désintéressée, je vous aurais épargné notre conversation. Mais puisque vous ne jugez pas à propos de me faire connaître vos intentions, nous ne pousserons pas cette matière plus loin. À vrai dire, je ne les connais pas trop moi-même. Misanville est une très aimable personne, et si j'étais homme à me marier, elle serait de toutes les femmes du monde celle dont je voudrais faire mon épouse. Mais je doute que votre philosophie même puisse me conseiller de prendre des engagements de cette nature avec une fille d'une naissance obscure qui n'a d'autre dot que ses beaux yeux et qui, probablement, est dans la dépendance. Nous ne discuterons pas davantage là-dessus et puisque nous sommes tous deux maîtres de notre volonté, nous agirons chacun selon notre bon plaisir. Madame Selwyn, craignant d'être surprise et voyant d'ailleurs que mes soupçons étaient mal fondés, quitta son poste et vint me rendre compte de ce qu'elle avait entendu. Quel homme que ce sœur Clément ! Quel cœur volage ! Que de ruses ! Que d'artifices ! En attendant, il se trompe lourdement, car cette fille si pauvre et obscure, loin d'ambitionner l'honneur de son alliance, la rejettera haut la main, à présent et jamais. Quant à Mylord Orville, mais n'en parlons pas. Vous me direz vous-même, monsieur, ce que vous en pensez, si sa conduite n'est pas celle d'un parfait galant homme, si j'ai tort de l'admirer. J'étais un peu confuse de reparaître en présence des deux parties, après le débat singulier dont j'avais été l'objet. Je ne pus cependant me dispenser décemment de dîner avec eux. Sœur Clément fut distrait et mal à son aise pendant le repas. Son esprit était visiblement à la torture. Il me veillait de près, il épiait également Mylord Orville. Je le traitais sans le moindre ménagement, étant décidé d'éviter à l'avenir toute conversation avec lui. Je suis trop irritée pour souffrir plus longtemps ses insultantes assiduités. Je n'eus pas une seule fois le courage de rencontrer les yeux de Mylord Orville. Sa vue et le souvenir de ce qui s'était passé me tint pour ainsi dire en respect. Je redoutais sa sagacité. Je n'ai pas quitté Madame Selwyn du reste de la journée. Adieu, mon cher monsieur. J'attends demain des lettres de votre part. Elles décideront, je pense, de mon départ, soit pour Berry Hill, soit pour Londres. Lettre 76. Continuation de la lettre d'Evelina. 6 octobre. Ma lettre d'aujourd'hui sera vraisemblablement la dernière que vous recevrez de Clifton. Je l'écris dans une agitation qui me permet à peine de conduire ma plume. Je suis descendue assez tard ce matin et, malgré cette précaution, Mylord Orville était encore seul dans la salle. J'étais un peu décontenancée de me trouver tête à tête avec lui après avoir évité si longtemps une pareille entrevue. Je fus sur le point de quitter d'abord la chambre, mais le lord me retint. « Si je vous incommode, me dit-il, je suis prêt à me retirer. » Non, mylord, je n'étais pas venu pour rester. Je m'étais flatté cependant que vous m'accorderiez un moment d'entretien. » Je revins sur mes pas presque involontairement, et il ajouta, après une courte pause, « Vous êtes bien bonne, miss, d'avoir égard à mes prières. Depuis longtemps déjà, je cherche l'occasion de vous parler. » Je ne lui répondis rien, et il poursuivit, « Vous m'avez permis, madame, d'oser prétendre à votre amitié, de m'intéresser à ce qui vous regarde, de vous appeler du tendre nom de sœur. J'ai reconnu cet honneur comme je le devais. » Mais j'ignore par quel étrange accident j'ai eu le malheur de m'en rendre indigne. Tout est changé depuis quelques jours, vous me fuyez, ma présence vous est à charge, vous évitez avec soin ma conversation. » Cette imputation, faite d'un ton très sérieux, me fit d'autant plus de peine qu'elle était fondée. J'en fus honteuse, mais je ne répondis pas encore. « J'espère, continua le lord, que vous ne me condamnerez point sans m'entendre. » Si j'ai eu le malheur de vous déplaire, dites-moi comment. Je ne désire rien de plus que de réparer ma faute et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour mériter mon pardon. » « Mylord, vous poussez la politesse trop loin. Non, vous n'êtes coupable de rien, je n'ai pas idée d'avoir été offensé par vous et s'il est question d'excuses, je vous en dois plutôt que je n'en attends de votre part. » « Vous êtes la douceur et la bonté même, et je me flatte qu'il me sera permis de vous redemander des titres qu'il m'importe tant de conserver. Mais toujours occupé de l'idée inquiétante de vous avoir déplu, j'espère, madame, que sans être indiscret, j'oserai vous supplier de ne pas me laisser ignorer ce qui peut avoir causé un changement si subit et si pénible pour moi. » « En vérité, mylord, cela n'est pas si aisé. Je ne le puis. » Je rougis d'être aussi pressant, mais il est peut-être nécessaire que je sois tiré d'erreur, et c'est de vous seule, madame, que j'attends une explication. D'ailleurs, l'époque de ce changement me fait craindre. Me permettrez-vous de vous faire part de mes conjectures ? Et pourquoi non, mylord ? Dites-moi donc, et pardonnez en même temps une question de la dernière conséquence. Sir Clément Willoughby n'entre-t-il pas pour quelque chose dans cette révolution ? Pour rien du tout, mylord, répondis-je d'un ton ferme. Mille et mille remerciements, vous me soulagez d'un grand fardeau. Mais de grâce, encore un mot. N'est-ce pas à Sir Clément que je dois attribuer une partie de la réserve que vous vous êtes imposée à mon égard ? Car si j'ai bien calculé, elle date du jour même de son arrivée aux eaux. N'attribuez rien à Sir Clément, il ne saurait avoir la moindre influence sur ma conduite. Puis-je donc espérer que vous me rendrez cette même confiance et ces mêmes bontés dont vous m'aviez honoré avant son arrivée ? Pour mon bonheur, Madame Beaumont vint nous interrompre. Je ne savais plus que répondre. Nous déjeunâmes ensemble. Mylord Orville fut de la meilleure humeur possible. Jamais je ne le vis plus gai et plus aimable. Bientôt après, Sir Clément se fit annoncer. Il venait, disait-il, rendre ses devoirs à Madame Beaumont. Je me retirai dans ma chambre où je donnai un libre cours à mes réflexions. J'y trouvai des motifs de consolation et de nouvelles alarmes. C'est dans cet état que je reçus votre chère lettre. Ah, monsieur, que je suis touchée des vœux et des prières que vous faites pour Evelina, que je suis reconnaissante des bénédictions que vous répandez sur moi. Je dois vous quitter pour me jeter entre les bras de mon père légitime. Ô, vous qui avez été le guide, l'ami et le protecteur de ma jeunesse, vous qui avez eu soin de mon enfance, qui avez formé mon esprit et qui m'avez conservé la vie, c'est vous seul que mon cœur a vous pour père, c'est à vous seul que je jure une obéissance, une gratitude, une tendresse éternelle. J'augure assez mal de l'entrevue à laquelle je suis appelé. Mais, quelle que soit l'importance de cet objet, je suis entièrement occupée dans ce moment d'un incident dont je dois vous rendre compte incessamment. Je n'ai pas manqué d'informer Madame Selwyn du contenu de votre lettre. Elle me parut bien aise de vous voir de son avis, et elle fixa d'abord notre départ à demain matin. La chaise-poste fut arrêtée pour 1 heure après minuit. Elle me dit ensuite de faire ma malle pendant qu'elle s'amuserait à conter quelques sornettes à Madame Beaumont pour la préparer à notre départ. En allant dîner, je retrouvai Mylord d'Orville de tout aussi bonne humeur qu'auparavant. Il s'assit à côté de moi, plaisantant sur mon goût pour la retraite, et il aurait été en droit de me répéter ce qu'il m'a dit dernièrement, qu'il perdait ses peines à me divertir. En effet, l'entreprise eût été difficile. J'étais triste et abattu. L'idée d'une entrevue solennelle, celle d'une séparation douloureuse, pesait trop à mon cœur pour que je fusse maîtresse de mon esprit. Je regrettais même l'espèce d'explication que j'avais eue avec Mylord d'Orville. Pourquoi fallait-il que nous quittassions l'un et l'autre le ton réservé que nous semblions nous être imposé? Il fut question pendant le repas de notre voyage à Londres, et cette nouvelle parut consterner Mylord d'Orville. Un nuage épais se répandit sur sa physionomie, et il devint presque aussi pensif et aussi tranquille que moi. Madame Selwyn, occupée de ses préparatifs, se retira en sortant de table et me pria de lui rassembler quelques livres qu'elle avait laissés dans la salle à visite. Je m'y rendis pour les chercher, mais quelle fut ma surprise de voir que Mylord d'Orville m'y avait suivi. Il tira la porte après lui et, en s'approchant de moi d'un air inquiet, il me dit « Est-il vrai, Miss Anville, que vous partez ?»«
Je crois que oui, Mylord. »
« Faut-il que je vous perde si subitement, au moment où j'y pensais le moins ?»«
La perte n'est pas grande, Mylord. »«
Se peut-il, Miss, que vous doutiez de ma bonne foi ?»«
Je ne comprends pas, dis-je en continuant à chercher, ce que Madame Selwyn a fait de ses livres. »«
Ah, si j'osais me flatter que vous me permissiez de vous prouver jusqu'où va la sincérité de mes intentions !»
Permettez, Mylord, que j'aille trouver Madame Selwyn.
Quoi ? Vous me quittez ? Et il me retint en même temps par la main. Sans me donner la plus légère espérance de vous revoir ? Enseignez-moi du moins, ma trop aimable amie, à supporter votre absence avec un courage digne de celui que vous montrez vous-même.
De grâce, Mylord, laissez-moi.
Oui, s'écria-t-il en se jetant à genoux. Oui, je vous laisserai si vous le voulez ainsi.
Que faites-vous, Mylord ? Au nom du ciel, levez-vous ! Mylord d'Orville, à mes genoux ! Non, je ne vous croyais pas assez barbare pour vous jouer de moi.
Me jouer de vous ? Ah, que j'en suis éloignée ! Non, Miss, je vous estime, je vous admire, je vous respecte plus que personne au monde. Vous êtes l'amie que mon cœur s'est choisie et à laquelle il rapporte tout son bonheur. Vous êtes la plus aimable et la plus parfaite des femmes, et vous m'êtes mille fois plus cher que mes paroles ne sauraient l'exprimer. Je n'entreprendrai point de vous décrire, monsieur, ce que je sentis dans ce moment. Je respirais à peine, je doutais presque si j'étais en vie, tout mon sang se glaça dans mes veines, et je n'eus plus la force de me soutenir. Mylord d'Orville se releva en sursaut. Il approcha un fauteuil, et j'y tombai presque sans connaissance. Nous restâmes plusieurs minutes sans parler. Mylord d'Orville, me voyant cependant un peu revenu, rompit le silence. Il me demanda pardon en bégayant de sa vivacité. Je voulus m'en aller, mais il me retint par force. Essaierai-je de tracer la scène qui suivit ? Comment vous la rendre, quoiqu'elle soit gravée profondément dans mon cœur ? Mais les discours d'Orville, ses protestations, étaient trop flatteurs pour que je ne prenne pas plaisir à les répéter. J'avais cherché plusieurs fois à quitter la chambre et il s'y opposa avec opiniâtreté. En un mot, monsieur, je ne pus tenir contre ses instances réitérées et il réussit à m'arracher le secret le plus sacré de mon cœur. Je ne sais depuis quand nous étions ensemble, mais Madame Selwyn, impatientée apparemment de ma trop longue absence, vint me chercher et, en ouvrant la porte, elle trouva Mylord d'Orville à mes genoux. Jugez, monsieur, de ma honte et de mon trouble. Orville fut déconcerté autant que moi. Il se leva un peu confus et Madame Selwyn se donna le temps de nous regarder l'un après l'autre sans dire un mot. Enfin, elle adressa la parole au Lord. « Avez-vous eu la bonté, lui demanda-t-elle de son ton de sarcasme, d'aider Miss Anville à chercher mes livres ?»«
Oui, répondit-il en affectant de plaisanter, et j'espère que nous ne serons plus longtemps à les trouver. »
« Vous êtes trop bon, Mylord, et il y aurait de l'indiscrétion à vous faire perdre votre temps. » Puis, se tournant vers une des croisées, elle prit les livres qu'elle avait demandés.
et en nous distribuant à chacun un volume, elle ajouta « Tenez, de cette manière, ma commission nous aura occupés tous trois et nous ne ressemblerons pas mal aux domestiques du tambour nocturne. » Elle sortit en nous lançant un regard très expressif. J'aurais dû la suivre, mais Mylord Orville me pressa de demeurer encore un instant. Il lui restait, dit-il, quantité de choses intéressantes à me dire. « Non, Mylord, lui répondis-je, je dois vous quitter. Je ne suis demeuré, hélas, que trop longtemps. Regrettez-vous sitôt les bontés que vous avez eues pour moi ?»« Mylord, je ne sais plus ce que je fais, je suis tout hors de moi-même. » Une heure d'entretien dissipera toutes vos inquiétudes et me confirmera mon bonheur. Qu'en puis-je espérer, Miss, de vous voir sans témoin? Serez-vous demain à la promenade? Non, Mylord, je ne veux pas m'exposer une seconde fois au reproche d'avoir donné un rendez-vous. Est-ce donc pour Monsieur McCartney seul que vous réservez cette faveur? Monsieur McCartney est pauvre et il m'a des obligations à ce qu'il croit du moins, sans quoi... La pauvreté, il est vrai, n'est pas un titre que je puisse alléguer. Mais si c'en est un que de vous avoir des obligations, j'ai plus de droit qu'il n'en faut pour vous demander un tête-à-tête. Mylord, il m'est impossible de rester plus longtemps avec vous. Que dira Madame Selwyn? Ne lui ôtez pas le plaisir de faire ses conjectures. Mais dites-moi, je vous prie, êtes-vous sous sa direction? Oui, pour le moment. J'ai encore 1000 questions à vous faire, mais il en est une surtout qui m'intéresse essentiellement. Miss Anville dépend-elle d'elle seule, ou bien existe-t-il quelqu'un dont je dois rechercher le consentement? Ah, Mylord, j'ignore presque moi-même à qui j'appartiens. Souffrez donc, je hâte l'instant qui doit éclaircir ses doutes, l'instant où vous appartiendrez seul au fidèle Orville. Je fis un nouvel effort pour rompre cette conversation et je sortis pour m'enfermer dans ma chambre. J'étais trop agitée pour rejoindre Madame Selwyn. Quelle scène, mon cher monsieur! L'entrevue qui se prépare pour demain ne saurait m'affecter davantage. Être aimée de Mylord Orville, être honorée du choix d'un cœur tel que le sien. Oh, ce bonheur est trop grand pour moi! J'en ai pleuré de joie, j'en ai pleuré à chaudes larmes. Dans cette heureuse inquiétude, j'attendis l'heure du goûter. Il fallut redescendre, et, à ma grande satisfaction, je trouvai la salle remplie de monde. On en remarqua moins ma confusion. On joua jusqu'à l'heure du souper. Mylord Orville mit ce temps à profit pour m'entretenir en particulier. Il observa que j'avais les yeux rouges, et il me pressa de lui en dire la raison. Quand je lui eus fait l'aveu de ma faiblesse, mes larmes étaient prêtes à couler encore, tant il mit de bonté dans les expressions de sa reconnaissance. Il voulut aussi savoir si mon voyage ne souffrait point de délai. Je lui répondis que non, et alors il me demanda la permission de me suivre en ville. « Qu'osez-vous me proposer, Mylord ?»« Oui, je veux que nos liaisons soient connues le plus tôt possible. Je dois cette attention à votre délicatesse, et le public verra du moins que vous n'étiez pas faite pour écouter tel ou tel soupirant indigne de vous. Ce serait donc m'exposer de nouveau aux censures de ce même public si je souscrivais à votre demande. Et n'est-il pas juste que je hâte l'instant heureux où les scrupules, les convenances ne mettront plus d'obstacle à notre union, où il me sera permis d'être à vous pour toujours, de ne plus vous quitter ? Je passai cet argument sous silence et Mylord Orville me répéta combien il désirait d'être du voyage. Ce que vous exigez, Mylord, est absolument impossible et n'est pas même en mon pouvoir. Le voyage que je vais entreprendre me privera vraisemblablement de la liberté d'agir par mes propres volontés. Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Je ne saurais m'expliquer davantage pour le présent. La tâche d'ailleurs serait trop pénible. Jusqu'à quand me garderez-vous, Miss, cette cruelle réserve? Quand commencerez-vous à m'honorer de la confiance que vous avez daigné me promettre? Soyez sûr, Mylord, que ma réserve n'est point affectée. Mes affaires sont dans une situation des plus embrouillées. Le récit en est long et tragique. Si cependant, Mylord, un court délai vous faisait de la peine... Pardonnez, adorable Miss Anville, mon impatience. Vous ne me direz rien de ce que vous souhaiterez me cacher. J'attendrai tranquillement votre confidence. Seulement, j'espère de votre bonté que vous ne me laisserez pas languir trop longtemps. Je ne prétends pas, my lord, vous cacher mes secrets. Il ne s'agit que de reculer cette explication. Orville, voyant que j'étais résolue à lui refuser la permission de m'accompagner à Londres, me pria de lui accorder celle de m'écrire. Il ajouta qu'il osait se flatter que j'honorerais ses lettres d'un mot de réponse. Le souvenir des deux lettres que nous nous étions écrites précédemment décida bientôt ma réponse. Elle fut entièrement négative. Si je ne craignais point de passer pour présomptueux, je vous avouerai, Miss, que je n'ai pu m'imaginer que cette proposition vous déplairait. Je pensais qu'elle nous aiderait à supporter les maux de l'absence. Je fus frappée du ton sérieux de cette réflexion. Et pouvez-vous prétendre, lui répondis-je, que je sois assez étourdie pour m'exposer à vous écrire une seconde fois ? Une seconde fois ? Vous me surprenez ! Avez-vous donc oublié si vite la sotte lettre que j'eus l'imprudence de vous envoyer pendant mon dernier séjour à Londres ? Je n'en ai pas la moindre idée. Que veut dire tout ceci ? Il vaut mieux, my lord, laisser là cette matière. Cela est impossible et je ne serai tranquille qu'après que vous aurez expliqué ce mystère. En effet, il me pressa tant que je lui rendis un compte rendu fidèle de ce qui s'était passé relativement à ces deux lettres. Jugez de mon étonnement, monsieur, quand il m'assura de la manière la plus positive que, loin de m'avoir jamais écrit une ligne, il n'avait ni vu ni reçu une lettre de ma part. Cette étrange découverte nous occupa l'un et l'autre pendant le reste de la soirée. J'ai promis à Mylord Orville de lui montrer cette lettre qui m'a été adressée en son nom. Elle servira peut-être à lui en faire connaître l'auteur. Après le souper, la conversation prit un tour général. « N'est-il pas vrai, mon très cher monsieur, que vous me félicitez de bien bon cœur des aventures de cette heureuse journée ? Je m'en souviendrai toujours avec joie et reconnaissance. Mylord Orville, je le sais, est bien dans votre esprit. Vous avez pris de lui une opinion avantageuse. » Ainsi, j'espère que vous ne désapprouverez point la franchise de la conduite que j'ai tenue avec lui. Je me flatte donc que le choix de votre Evelina obtiendra l'agrément de son meilleur ami. C'est l'unique souhait qui lui reste à former. Je crois, au reste, être à l'abri de tout reproche. Mon alliance avec Mylord fait honneur à ceux auxquels j'appartiens ou pourrais appartenir dans la suite. Adieu, mon cher monsieur. Je vous écrirai dès que je serai arrivé à Londres. »